Bienvenue à toutes et à tous à l'écoute des programmes en français de Radio Prague, des programmes qui débutent comme d'habitude par un bulletin d'information. Et on commence ce bulletin avec les derniers conscrits tchèques qui ont quitté leur caserne il y a quelques heures seulement. Le ministre de la Défense s'est déplacé à cette occasion pour marquer la fin du service militaire, obligatoire depuis près d'un siècle et demi dans cette région. Plus de détails sur l'acquis des derniers appelés dans un instant dans notre émission, Faits et événements. Au sommaire de l'actualité tchèque aujourd'hui, la Tchétchénie également et sa capitale Grozny, où les forces de sécurité russes ont lancé un raid dans la nuit de mardi à mercredi contre un bâtiment qui servait de base à l'Homme en détresse, l'une des ONG tchèques les plus actives dans la région du Caucase. Une personne aurait été tuée lors d'une opération qui, selon l'agence russe ITARTAS, a permis de saisir des armes et du matériel pour fabriquer des faux papiers. Le chef de la mission tchèque s'est déclaré très surpris par ces informations et il a confié à l'agence tchèque CTK que le bâtiment visé servait de salle de cours destinée aux femmes tchétchènes. La dispute entre le brasseur américain Anheuser-Busch et son concurrent tchèque Budvar autour de la Budweiser, appellation dont les deux fabricants revendiquent la propriété, a connu un nouveau rebondissement ce mardi avec un rapport de l'Organisation mondiale du commerce. D'après un communiqué du brasseur américain, le rapport de l'OMC conclut qu'une marque établie antérieurement ne peut coexister avec une appellation d'origine ultérieure et que les marques établies en premier ont généralement le dessus sur les appellations géographiques postérieures. Anheuser-Busch, numéro 2 mondial de la bière en volume, revendique ses 130 ans d'histoire, ayant commencé à brasser sa bière en 1876 et déposé sa célèbre marque 2 ans plus tard. Budvar, fondé en 1895 seulement, n'a pas déposé la marque que dans les années 30 et n'a commencé à vraiment l'utiliser que dans les années 60. Mais elle s'appuie sur la tradition de brassage de la ville d'origine de la bière pour justifier son appellation. Le Fonds national de la propriété, organisme d'État chargé de la gestion et de la privatisation des entreprises d'État, a annoncé mardi à Prague avoir formellement lancé le processus de privatisation des 51,1% que détient l'État dans l'opérateur Český Telecom. Les entreprises intéressées ont été invitées à se manifester avant le 21 janvier 2005 et le vainqueur de l'appel d'offres devrait être proclamé avant le 31 mars, le montant du prix étant le critère décisif. La privatisation de Český Telecom doit rapporter à l'État tchèque entre 50 et 60 milliards de couronnes selon les analystes. C'est à compter de cette semaine que les citoyens tchèques pourront passer les contrôles douaniers à la frontière suisse avec une simple carte d'identité. C'est le résultat d'un accord bilatéral entre Prague et Berne qui prend effet ce jeudi. Les Helvètes pouvaient quant à eux se rendre en République tchèque avec une simple carte d'identité nationale depuis le 1er mai déjà. On termine ce bulletin avec la météo, ça s'annonce mal pour le week-end de Noël. La journée de jeudi, d'après les prévisions satellites, sera couverte et c'est de la pluie qui devrait tomber sur l'ensemble du territoire. Ces précipitations se transformeront en chute de neige au-dessus de 1000 mètres en montagne. Un avertissement de la sécurité routière recommande aux chauffeurs de faire attention au verglas. C'était Alexis Rosenzweig au micro. Tout de suite, place à Magda Segertova pour les faits et événements en République tchèque.
Faits et événements en République tchèque. Magda Segertova.
Merci d'écouter Radio Prague. Voici les titres de l'actualité. La République tchèque se réjouit de la libération des otages français Georges Malbruno et Christian Chénaud. L'armée tchèque est entièrement professionnelle depuis ce mercredi. La justice tchèque a décidé de remettre en liberté un ancien criminel dangereux surnommé l'assassin de la Spartakiade. Le chanteur Jiří Dědeček a sorti un nouvel album dédié à Jacques Brel. Heureuse fin du drame des journalistes en Irak. Les otages français sont libres. Titre ce mercredi les quotidiens tchèques. En République tchèque aussi, la libération des journalistes français Georges Malbruno et Christian Chénaud, détenus depuis plus de 4 mois en Irak, a été accueillie avec une joie sincère. Le milieu journalistique a suivi le drame de ses confrères avec une attention particulière. Les souvenirs d'une semaine de captivité en avril dernier en Irak, de 2 reporters de la radio et de la télévision tchèque et d'un caméraman, sont encore frais. Il y a 2 mois, alors que les 2 Français étaient encore retenus en Irak, l'ex-otage de la radio tchèque, Vít Pohanka, a parlé de ses sentiments sur leur situation à Alexis Rosenzweig.
Od toho osobního pohledu já nemohu odmyslet, když si na Christiana Chesnou a George Malbruno.
Personnellement, quand je pense à Christian Chesnou et George Malbruno, il suffit que je lise quelque chose sur leur situation pour ressentir même physiquement un certain malaise. Ils sont peut-être retenus seulement dans le but, pour les ravisseurs, d'avoir l'occasion d'exercer une pression et peut-être même dans le but de se faire de l'argent. C'est doublement injuste dans leur cas. Une prise d'otage est toujours répugnante, mais dans ce cas précis, Christian Cheneau et Georges Malbruno sont de nationalité française et nous savons, les Irakiens aussi le savent, quelle a été la position de la France contre l'invasion de l'Irak.
Mais enfin, Vite Pohanka a constaté que le fait que Christian Cheneau et Georges Malbruno soient de nationalité française était un facteur positif.
Je pense que cela joue certainement en leur faveur. Dans notre cas, malgré le fait que nos ravisseurs connaissaient vaguement la Tchécoslovaquie et pas la République tchèque, ils ignoraient la présence des policiers militaires tchèques sur le sol irakien. Évidemment, nous ne les avons pas informés de leur existence. Heureusement, nos policiers étaient stationnés dans le sud près de Bassora et nous étions, comme nos collègues français apparemment, près de Fallujah. Je crois que s'ils n'étaient pas français, leur sort aurait déjà été celui subi par les derniers otages assassinés. Comme le dernier otage britannique.
C'était le journaliste tchèque et ex-otage en Irak, Vít Pohanka. Jiří Straka, 3 meurtres, 2 tentatives de meurtre, viol, vol à main armée. La justice tchèque vient de décider de le remettre en liberté. Pour quelles raisons? Détaillé par Alain Slevensky.
Jiří Straka avait 16 ans en 1985. C'était l'année de la Spartakiade, la grande fête gymnique tchécoslovaque du temps du régime communiste. C'est au printemps de cette année que le jeune adolescent a commis ses atroces crimes. En 68 jours, ou plutôt nuits, il a agressé 8 femmes pour les dévaliser au début, ensuite les violer et à la fin en assassiner 3. C'est pour cette raison qu'il a reçu le surnom d'assassin de la Spartakiade. Pendant l'instruction et le procès, les experts ont démontré qu'il s'agissait d'un sadique qui ne pouvait être guéri. Il fut condamné à 10 années de réclusion criminelle seulement, car il était mineur. Après 9 années de prison et 10 autres années passées dans un hôpital psychiatrique, la cour d'Ostrava, en Moravie du Nord, vient de décider de sa remise en liberté sur la recommandation des médecins. Le verdict a suscité une grande attention de la part des médias, mais surtout des familles des victimes, des experts en psychiatrie et sexologie criminelle et des policiers qui ont mené l'enquête. Certains médecins affirment que Jiří Straka est guéri, qu'il a subi une castration et un traitement destiné à freiner ses impulsions sexuelles. Pour eux, il est inutile qu'il reste enfermé dans un établissement, d'où des sorties lui sont d'ailleurs permises. Libre, il continuera à être suivi par les services psychiatriques. Peter Weiss, sexologue et psychologue renommé, affirme qu'il y a très peu de chances qu'il renouvelle ses actes. D'après les dernières études, il apparaît que seulement 17% des déviants sexuels récidivent. Cela veut dire ceux qui ont subi un traitement, mais répètent leur acte. J'insiste sur le fait que parmi les déviants qui ont subi un traitement et une castration, il n'y a jamais eu de récidive. Jiří Straka pense s'établir chez ses parents dans la région des monts Jeseniki, où ils ont déménagé de Prague après l'affaire de leur fils. Les habitants de la commune de Velké Losiny, où ils habitent, déclarent avoir peur de vivre dans le voisinage de l'assassin de la Spartakiade, même si les experts affirment qu'il est guéri. Pour le policier Jiří Markovič, qui a arrêté Jiří Straka, les maniaques sexuels de son genre, même après avoir été castrés, peuvent récidiver. Lui-même se souvient de 2 cas dans les années 70 du siècle dernier. Pour les proches des victimes, l'assassin de la Spartakiade devait rester toute sa vie derrière les barreaux.
Fini la corvée de patates et le lit au carré. Les derniers appelés du service militaire ont quitté les casernes ce mercredi. Désormais, la République tchèque, l'un des premiers pays d'Europe centrale et orientale avec la Hongrie, a disposé d'une armée entièrement professionnelle. Guillaume Narquet.
Nous ne pouvons pas dire qu'à partir du 1er janvier 2005, nous serons une armée de professionnels et que nous serons complètement prêts. Ce n'est pas vrai. C'est avec des propos teintés de prudence et de réalisme que le général Josef Sedlak, commandant en chef des forces armées, a réagi à la fin effective du service militaire obligatoire. Selon lui, la libération des conscrits de l'armée tchèque est l'unique raison qui permette d'affirmer que celle-ci est aujourd'hui entièrement professionnelle. 146 ans après son introduction, ordonnée en 1858 par l'empereur d'Autriche et roi de Hongrie, François-Joseph Ier, et 5 ans après son entrée dans l'OTAN, la République tchèque est cependant le 9e pays européen depuis la Grande-Bretagne en 1962 à restructuraliser son armée pour en faire un corps de métier. Le développement des systèmes technologiques toujours plus pointus, pour l'emploi desquels une formation de 12 mois ne suffit plus, la réduction des effectifs pour des raisons budgétaires, et enfin sa spécialisation au sein de l'Alliance Atlantique dans la lutte contre les armes de destruction massive, la médecine militaire et les systèmes d'observation et de détection passive sont les trois principales raisons du changement de nature de l'armée tchèque. Celle-ci sera désormais composée d'environ 22 000 militaires et 20 000 autres employés civils, alors qu'ils ont été jusqu'à 300 000 soldats en pleine période de guerre froide. Mardi, c'est à Strakonice, en Bohême du Sud, que le ministre de la Défense, Karel Kühnel, s'est rendu pour passer en revue et saluer la dernière unité s'apprêtant à rejoindre la vie civile. « Je ne devrais pas ressentir de plaisir que des soldats quittent l'armée, mais pourtant j'en ressens. Le service national obligatoire qui avait été instauré sous domination autrichienne se termine. Et je dois avouer que dans ce sens, je suis satisfait que nous précédions les Autrichiens », a-t-il déclaré pour l'occasion. Si l'État, l'armée et les jeunes hommes tchèques ont donc toutes les raisons d'être satisfaits de cette évolution, en revanche, certains centres d'aide sociale et autres établissements de santé comme les hôpitaux regrettent déjà le précieux travail de fourmi de tous ces volontaires qui préféraient effectuer un service civil plutôt que militaire.
Dočkali jsme zas. Táčkové rybě zpívají, pastuškové vytrubují, co to nového, neslíchaného.
Existe-t-il beaucoup de différences entre la manière dont les fêtes de Noël sont vécues en France et en Tchéquie? Notre collaboratrice Nathalie Franck a posé la question à Gabriela Jehojeva Pragoise, qui vit en France depuis maintenant 6 ans. Mariée à un Français, elle a pu observer de près la façon dont une famille française fête Noël et le comparer avec sa propre expérience tchèque.
C'est sûr qu'il y a certaines différences dans la manière de vivre et de préparer Noël entre la République tchèque et la France. En République tchèque, on commence à préparer Noël beaucoup plus tôt. Déjà, ça commence un petit peu par la fête de la Saint-Nicolas, qui est fêtée, qui est bien évidemment une fête plus pour les enfants que pour les adultes, mais qui inaugure en quelque sorte quand même la période de Noël. Cette fête de la Saint-Nicolas n'est pas forcément fêtée partout en France. Ça existe dans les régions de l'Est de la France, mais pas ailleurs. Ensuite, en République tchèque, on met beaucoup plus d'accent à la préparation de l'avant, c'est-à-dire les 4 semaines juste avant Noël, avant le 25 décembre, on commence déjà à mettre des couronnes qui sont préparées avec les feuilles, avec les épines des sapins. On met chaque semaine une bougie qui doit donc inaugurer une semaine qui a avancé à Noël. En même temps, pendant le mois, donc pendant les 4 semaines de l'Avent, dans les familles tchèques, on commence déjà à préparer les gâteaux de Noël, qui sont les gâteaux traditionnels. Toutes les familles ont leurs propres recettes, mais en même temps, ces gâteaux se ressemblent beaucoup, tous. Et ça, c'est quelque chose qui manque aussi en France. On prépare pas forcément un mois à l'avance, avant Noël, des gâteaux que l'on va ensuite manger pendant les fêtes de Noël. Et si on arrive ensuite donc aux traditions même de comment est-ce qu'on peut fêter les jours de Noël, les fêtes de Noël, il y a aussi une différence assez nette entre la République tchèque et la France, parce que en République tchèque, on fête Noël le 24 décembre au soir. On commence par un dîner qui doit commencer avec l'apparition de la première étoile sur le ciel. Ce dîner est traditionnel. On pourrait presque dire que c'est un dîner national parce que le plat est homogène, est unique pour toutes les familles. Le dîner commence par une soupe de poisson, de carpe. Et ensuite continue par un plat composé de la salade de pommes de terre et de la carpe panée. Le dîner se termine toujours donc par la consommation des gâteaux qui ont été préparés un mois à l'avance. Et ensuite, tout de suite après le dîner, c'est le moment qui est le plus attendu par tous les enfants parce que tout de suite après, les enfants découvrent les cadeaux sous l'arbre de Noël. Les cadeaux sont posés sous l'arbre de Noël, seulement chaque cadeau a une petite indication avec le nom, le prénom de la personne à qui le cadeau appartient. Alors qu'en France, finalement, dans mon expérience personnelle, dans ce que j'ai pu découvrir, Noël est fêté principalement le 25 décembre.
Gabriela Jehořová, une Tchèque fixée à Dijon, au micro de Radio Prague.
Hlouby srdce žár, okupivač ber, k tlustý Adrieně posedět. Chodilo nás pár, Jojo, já a Pierre, splachovat těch našich 20 let. Jojo byl jakože Voltaire a Pierre byl Casanova.
La sortie la semaine dernière du CD au titre franco-tchèque Musíme vidět, il nous faut regarder, signé Jiří Dědeček, a été très remarquée par la critique. Chanteur, auteur, compositeur et érudit amoureux de la musique française, Jiří Dědeček y interprète les chansons de Jacques Brel, ou plutôt ses versions tchèques de ses chansons. Aussi, elles ont donné lieu à un récital que Jiří Dědeček présente avec succès sur plusieurs scènes pragoises. Jiří Dědeček au micro de Guillaume Larguet.
Brel, c'est une affaire de cœur, si vous voulez. Les Belges, la communauté française, Wallonie-Bruxelles de Prague, m'a demandé de traduire quelques chansons de Brel à l'occasion d'une exposition. Et on croyait que je pouvais chanter 2-3 chansons au vernissage de l'exposition et puis que ça serait terminé. Mais c'était tellement émouvant pour moi de traduire les chansons de Brel et puis une grande découverte pour moi-même d'y pénétrer, c'est-à-dire de se perdre dans la chanson en chantant et d'éprouver les mêmes émotions, d'essayer d'éprouver les mêmes émotions que Brel. Quand je chante les vieux, je me sens vraiment comme en chantant mes propres chansonnettes, c'est-à-dire c'est une traduction, c'est l'idée de quelqu'un d'autre, mais c'est pour moi tellement tellement personnel que je peux vraiment m'identifier avec la chanson. D'après la réaction des gens, je peux dire que enfin c'est un peu usé la phrase, mais que son œuvre est toujours vivante parce que les gens réagissent. Les gens quand je chante les bourgeois, ils rient, ils réagissent de la même façon que les gens d'autrefois, de l'époque de Brel, enfin je suppose.
Comment est-il possible de faire passer le message de ces chansons, parce que ce sont des textes très particuliers qui concernent son pays? Comment le public tchèque comprend-il ces chansons?
Oui, vous parlez de la chanson « Le plat pays » par exemple. C'est vrai, je ne sais pas, parce que celle-là, je ne l'ai pas traduite. Mais justement, j'ai choisi de son œuvre les chansons qui sont, je dirais, universel, qui parle à tout le monde. Et là, j'ai déjà cité les bourgeois. Puis il y a, par exemple, les vieux, la chanson des vieux amants. Ce sont les problèmes, les sujets vraiment universels qui concernent tout un chacun. Et là, il est facile de transmettre le message de Brel, c'est-à-dire facile, entre parenthèses, il faut d'abord bien traduire son texte et puis plus ou moins bien chanter avec une voix qui n'est pas de Brel, évidemment.
Co bouří prošlo mezi námi, když láska šílí 20 let. Tisíckrát jsem si balil krámy, tisíckrát chtěla jsi odletět. Tady to slyšel každý kout těch řečí nikam od nikud a pak těch vychřic, až Bůh brání. Stačí si jenom vzpomenout, ztratila jsi na čas vody chuť a já zase chuť k dobývání. O lásko má, má sladká něžná lásko zázraků, do nových svítání i soumraků. Já mám tě rád a chci mít stále.
La chanson des vieux amants de Jacques Brel, interprétée par Jiří Dělíček à la fin de ce magazine d'actualité. Ne quittez pas l'écoute, notre programme se poursuit.
Chapitre de l'histoire tchèque. David Allon.
L'accord entre l'Union européenne et la Turquie sur l'ouverture des négociations d'adhésion à l'UE a finalement été validé le 17 décembre dernier. Aucun lien, a priori, entre l'histoire de la Bohème et celle de la Turquie. À y regarder de plus près, on constate pourtant que leurs destins respectifs se sont souvent entrechoqués, toujours de manière indirecte. Si les Hongrois puis les Serbes furent en première ligne des guerres austro-turques, les pays tchèques furent aussi concernés et participèrent à cette tranche d'histoire. Mais qu'est-ce qui peut bien transparaître dans la Prague d'aujourd'hui, voire d'hier, de l'histoire turque ? Rien. Si ce n'est le café, dit à la turque, et bien sûr l'automate de l'horloge astronomique de la vieille ville. Reconnaissable à son turban, il symbolise la peur et illustre bien la crainte suprême qu'inspirèrent en Europe centrale les conquérants venus d'Anatolie. Le territoire de la Bohême resta à l'abri des invasions ottomanes. Mais la réputation des fantassins turcs alimentait les inquiétudes. Par la rapidité de leurs incursions et leur maîtrise équestre, les Ottomans affichent du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle une supériorité militaire indéniable face aux armées occidentales. Si les Turcs n'ont jamais pénétré en Bohême, il faut tout de même rappeler qu'ils s'en rapprochèrent dangereusement en 1683. Le 25 juin, le général Kara Mustafa entreprend à la tête de 110 000 janissaires le siège de Vienne. Le 14 juillet, il arrive devant la résidence impériale, déserté par Léopold Ier et sa cour. La réaction des alliés de l'empereur sera rapide et le XVIIIe siècle verra ensuite le déclin de l'Empire ottoman, contraint d'abandonner ses territoires européens. Mais n'oublions pas que de 1541 à 1717, ils occupent la moitié du territoire hongrois et représentent ainsi une menace permanente pour les habitants de Bohême. La crainte des Ottomans était alimentée par une réputation injustifiée de cruauté, colportée par les récits populaires. Or, il n'en était rien. Les Ottomans excellaient dans l'art politique et firent preuve, à l'égard des populations conquises, d'une grande tolérance religieuse. Chrétiens orthodoxes, catholiques romains ou protestants, aucune confession ne fut inquiétée sous occupation ottomane. Une situation qui tranchait nettement avec la politique de reconquête catholique entreprise par les Habsbourg depuis le Concile de Trente. La peur du Turc se sera aussi nourrie d'une bonne dose de fantasmes. Établis en Anatolie, les Turcs commencent leurs incursions en Europe à partir du XIVe siècle. Leur progression est rapide. En 1371, Mourad Ier bat les Serbes. 11 ans plus tard, il prend Sofia, puis c'est le tour de Salonique. À la fin du XIVe siècle, l'Empire ottoman s'est étendu à la Serbie et à la Bulgarie. Face à cette déferlante, différentes combinaisons stratégiques sont utilisées par les puissances d'Europe centrale. Parmi celles-ci figure l'union personnelle entre la Bohême, la Hongrie et la Pologne. On espérait ainsi créer des structures politiques et militaires capables de rivaliser avec celles de l'Empire ottoman. Un pré-OTAN à l'échelle régionale, en somme, toute proportion gardée. À partir de 1490, les Jagellons, dynastie polonaise, réunissent sous une même couronne la Bohême, la Lituanie, la Pologne et la Hongrie. L'idée d'une fédération défensive paraissait fondée. Elle se concrétisera vraiment sous le règne des Habsbourg, qui, à partir de 1527, rassemblent Autrichiens, Tchèques et Hongrois sous un sceptre commun. Mais dans ce nouveau contexte, les Tchèques ne jouent pas de rôle militaire direct. Dotée d'un sol riche et d'une proto-industrie développée, la Bohême est assignée au rôle de caisse financière de la monarchie. Le déficit, accentué par les dépenses militaires, est en effet une maladie chronique des Habsbourg. L'occupation de Vienne en 1683, malgré l'onde de choc qu'elle provoque, représente le dernier soubresaut d'un empire ottoman en déclin. En 1699, à l'issue d'une victoire décisive, Léopold Ier réintègre la Hongrie à la monarchie, après 2 siècles d'occupation turque. Ce qu'on sait moins, c'est que cette victoire n'aurait pu être obtenue sans l'aide de la plus grande fortune de Bohême, le prince Ferdinand Schwarzenberg. Celui-ci prêta à plusieurs reprises la coquette somme de 100 000 florins à l'empereur. En 1717, Eugène de Savoie reconquiert Belgrade. Léopold Ier contrôle ainsi une clé stratégique pour les Balkans et l'Empire. Encore une fois, la monarchie avait dû, au préalable, exiger de lourds sacrifices de la Bohême. On leva ainsi un nouvel impôt turc, une taxe spéciale sur le clergé et une contribution sur les Juifs. Pour la petite histoire, la guerre austro-turque jouera un rôle méconnu dans la décision de Rodolphe II de déplacer sa cour à Prague. Contrairement à Ferdinand Ier, qui en 1520 quittait Prague pour se rapprocher des théâtres d'opération, Rodolphe II s'y installait afin de s'en éloigner. Les liens entre la Bohême et la Turquie n'auront pas été directs, mais les fils de l'histoire ont tissé entre les deux pays un passé commun. Ceci explique peut-être que le débat soit si vif dans les médias tchèques sur l'adhésion de la Turquie à l'UE.
Le programme en langue française de Radio Prague Ondes Courtes se termine. Merci de votre attention. Vos rapports d'écoute, observations et suggestions seront les bienvenus.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 1.